Brume 90.7 en direct, 18h30 tapante, et c'est l'heure pour nous du Confluence Cinéma. Salut à toi Raphaël.
Bonsoir Amaury, bonsoir.
Alors,
à tout le monde.
Dans quelques minutes, on aura aussi Hakim Daouf qui sera là dans les studios. Et pour l'instant, on va parler des quelques films que toi t'es allé voir dans la semaine.
Je suis surtout allé voir un film sur Los Angeles, réalisé par Dan Gilroy, un cinéaste que je ne connaissais pas et qui s'appelle Night Call, et qui met en vedette Jake Gyllenhaal.
D'accord, tu peux nous parler un petit peu de ce film justement?
Tout de suite, tu veux pas le petit sommaire d'abord?
Allez, petit sommaire, donc deuxième partie, on parlera de Astérix, et alors c'est le meilleur pour toi.
Hein. Oui, je balance le terme, pour moi c'est la meilleure adaptation d'Astérix, toute œuvre confondue, dessin animé, film en live, etc., réalisé par Alexandre Astier.
Et Hakim, de son côté, il nous parlera du dernier film avec Guillaume Canet, c'est ça?
Oui, la prochaine fois, je viserai le cœur. Un film qui retrace l'histoire du tueur de l'Oise, un gendarme qui assassinait des jeunes femmes qui faisaient l'autostop.
Et dans la troisième partie, ça nous permettra de revenir justement sur les films qui ont été consacrés aux tueurs en série. Alors, on en a listé quelques-uns pour vous, chers auditeurs. Il y en a à foison, hein.
On a énormément. Depuis la création du cinéma, il y a des films de tueurs en série. L'un des premiers étant, par exemple, on y reviendra, M le Maudit de Fritz Lang.
Ouais, il y a vraiment en plus des super films, quoi.
Oui, dans tous les genres en plus. Même La Cité de la Peur est un film de tueurs en série. Hein. C'est une comédie, mais on peut le compter dedans, même Hot Fuzz. On en sera tout à l'heure, non? Avec Hakim.
Ouais, on parlera de ça en troisième partie. Revenons à nos moutons et tu veux nous parler de LA, Los Angeles alors.
Et ouais, et du coup, il y a tout de suite un lien déjà avec les tueurs en série, puisque l'acteur principal de ce film, donc Night Call, Nightcrawler en anglais, c'est Jake Gyllenhaal qui traquait un tueur en série dans Zodiac. Et Zodiac était un film très citadin, il se situé à l'époque dans les 70s à San Francisco. Et là, pour le coup, on suit l'histoire de Gyllenhaal, qui a beaucoup maigri pour le film, on le reconnaît à peine. Il a un visage très creusé, très marqué. Hein. Il joue une sorte de, comment on pourrait dire, de vagabond, un peu de simplet, enfin, du moins en apparence. Et c'est un homme qui est assez pauvre, assez solitaire. Il est assez fasciné par la télévision et pour gagner sa vie, il vend des métaux. Donc, il pique par-ci, par-là des plaques d'égout. Il essaie de les vendre à quelques centimes pour gagner sa vie, pour faire son beurre, quoi. Et un jour, par hasard, il va tomber sur l'autoroute, sur un accident. Quelqu'un qui s'est crashé quoi, avec sa bagnole. Et les pompiers arrivent. Et là, en même temps, il y a une équipe de journalistes, de caméramans qui arrivent et qui commencent à filmer l'incident quoi, dans un but purement voyeur, quoi, pour proposer ça ensuite à des chaînes de télévision, hein, au plus offrant. Et il est complètement fasciné par ce qu'il voit et il décide, par conséquent, de vendre ce qu'il a, de trouver le moyen de trouver un caméscope, de trouver de quoi enregistrer et de vendre, par conséquent, les incidents, les cambriolages, les meurtres. Et il va très vite se dirigé vers une compagnie de Los Angeles, je crois que c'est la sixième chaîne, excusez-moi, je vais y arriver, du coin, et qui est dirigée par René Russo. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, c'était une actrice qui avait tourné entre autres pour McTiernan, hein, dans Thomas Crown, hein, et elle est vraiment avide de tout ce qui est plus violent, quoi, tout ce qui est plus sanglant, tout ce qui est capable de faire le plus grand audimat, elle est acheteuse, quoi, elle est preneur de tout ça, et par conséquent, un jeu du chat à la souris va un peu s'instaurer entre les deux personnages, mais surtout, le personnage de Gyllenhaal va aller progressivement de plus en plus loin en fait dans le voyeurisme et dans les meurtres en fait. Il va déplacer les cadavres sur les scènes de crime par exemple, il va faire des manipulations, des mises en scène et il va aller même jusqu'à créer des crimes, créer des cambriolages, enfin créer quelque chose à vendre et toujours avoir quelque chose, du biscuit, du papier quoi, pour ses fins quoi. Et c'est un personnage qui est intéressant à suivre pour le coup dans le film puisque c'est un homme qui va devenir de plus en plus robotique quoi, qui aura moins en moins d'émotions, moins en moins d'état d'âme, qui sera prêt à tout pour l'argent, pour la cupidité, qui est quand même aussi fasciné, on le sent, par la violence, par quelque chose de très malsain quoi. Et Gyllenhaal pour le coup dans le film, j'ai Gyllenhaal qui est un acteur que je trouve assez oublié. On l'avait découvert à l'époque avec Denis Darko. C'est une sorte de grande asperge avec des grands yeux assez innocents, assez enfantins, assez bizarre, quoi. Et je trouve que c'est un acteur qui est vraiment super. Et là, pour le coup, il est vraiment époustouflant, quoi, dans le film. C'est un robot, quoi. C'est un mec qui devient une sorte de fantôme au fur et à mesure du film. On ressent rien, quoi. C'est une pierre, le gars. Enfin, et il trouve comme ça une sorte de candeur, mais d'innocence en même temps. On n'arrive pas à le condamner, ce personnage. Et moi, je trouve que Gyllenhaal, c'est vraiment la pépite du film. Après, Après, je trouve que le film est bourré de défauts dans la mesure où il va peut-être pas assez loin dans la dénonciation du voyeurisme à outrance.
Ouais, parce qu'il fait quand même écho à pas mal de choses qu'on a pu voir ces dernières années, hein, finalement, que ce soit sur YouTube ou les gens qui vont filmer des crashs ou des accidents sans venir aider, et aussi les jeux télévisés qui vont toujours plus loin vers la violence et l'horreur.
Ou même, moi, je pense aussi aux chaînes de télé, tu sais, d'info continue. Tu sais, l'infotainment.
Ouais, à l'américaine.
C'est ça. Et faire constamment du spectacle. Peu importe, on le voit très bien dans le film, René Russo lui dit c'est pas la peine, ce truc n'est pas intéressant parce que ce crime ne se passe pas dans une banlieue huppée, donc ça n'intéresse personne. Tu vois, parce que c'est dans une banlieue normale où il y a que de la criminalité, c'est pas intéressant. Non, par contre, si c'est des vrais blancs, etc., riches, fortunés, qui se font agresser, là, ça fait vendre. Et pour le coup, il y a une vraie manipulation des médias, mais. Ça va pas assez loin. Peut-être qu'un cinéaste, j'ai pensé à ça dans le film, qu'un cinéaste comme David Cronenberg, un cinéaste que je n'aime plus trop aujourd'hui, mais le premier Cronenberg, le premier de la nouvelle chair, hein, un film comme Vidéodrome, par exemple, à l'époque, était 100 fois plus, je pense, visionnaire quant à tout ça que ce film-là, Nightcall, quoi. Et un cinéaste comme ça aurait pu emmener un côté beaucoup plus morbide, beaucoup plus violent, beaucoup plus ambigu, surtout.
Plus profond aussi,
ouais.
Sur le.
Et au final, voilà, ce qui manque vraiment au film, c'est vraiment une forme de mise en scène. Donc Dan Gilroy, je crois que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il est rattaché à Tony Gilroy, qui est un cinéaste plutôt de la justice. Il a écrit les Jason Bourne, etc. Il a fait un film avec Clooney sur un avocat. Je pense qu'il essaie de tendre vers ça, mais c'est à moitié réussi, quoi. Le film repose essentiellement sur son acteur, et s'il serait pas là, il y aurait quand même pas grand-chose à dire. C'est un peu faussement, tu vois, un peu faussement transgressif, un peu faussement racoleur, et je pense que dans les années 80, on aurait eu un plus grand film avec un Friedkin, par exemple, ou un Cronenberg, quoi.
D'accord. Eh bien, écoute, moi, je vais parler d'un film de Jean-Jacques Zilberman que j'ai été voir la semaine dernière et qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « À la vie ». Du coup, Zilberman, c'est le réalisateur notamment qui a fait « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes », qui avait été
avec Balasco, ouais.
Un beau succès, et deux, trois autres films comédies. Alors là, il s'attaque à une histoire plus ou moins personnelle parce que c'est l'histoire de sa maman et deux amis de sa maman qui sont des rescapés d'Auschwitz. Mais en fait, le film se situe pour la quasi-totalité à Berck-Plage, donc station balnéaire du nord de la France dans les années 60, avec ces trois anciennes déportées, trois amis qui ont réussi à survivre ensemble, mais qui se sont pas revus pendant 15 ans et qui se retrouvent du coup le temps d'une semaine à Berck. Alors voilà, donc c'est Julie Depardieu qui interprète l'héroïne principale. Il y a une actrice que je ne connaissais pas qui s'appelle Johanna Terstedge, qui est hollandaise, je pense, et Suzanne Clément. Donc c'est les trois actrices principales. Et voilà, donc l'idée est assez bonne finalement, assez belle même de ces trois femmes qui ont vécu quand même l'horreur, mais qui chacune à leur manière se reconstruisent et réussissent à vivre aussi de belles choses et d'aventures, et qui, en se retrouvant, vont en même temps à la fois se confronter au passé, mais aussi créer un petit peu des histoires d'amour, d'amitié. Voilà, donc l'idée est bonne, l'histoire est pas mal ficelée. Après, c'est un peu dommage parce que ça reste quand même assez plat, quoi. On a presque l'impression de lire un petit roman, et ça manque vraiment de cinéma là-dedans. Alors les actrices sont pas mauvaises, les dialogues, c'est pas un mauvais film non plus, mais bon, c'est voilà, ça reste quand même, on reste un petit peu sur sa fin, quoi, en allant voir ce film. Il y a deux trois histoires que ces femmes-là vivent pendant qu'elles sont à Berck avec d'autres personnages, ça fonctionne pas. Dans les trois femmes, c'est un peu les trois stéréotypes. Donc on a Julie Depardieu, la communiste, qui est hyper engagée, toujours le cœur sur la main. On a une autre qui est partie vivre au Canada, qui est devenue un petit peu la petite bourgeoise et qui, elle, veut plus du tout parler d'Auschwitz. Et puis celle qui est un petit peu plus la femme libérée, la hollandaise, qui est retournée à Amsterdam, qui est écrivain et qui, elle, par contre, parle sans arrêt d'Auschwitz. Enfin, voilà, on a... c'est finalement des oppositions un peu trop... voilà, ça manque un petit peu de finesse et c'est dommage dans les traits des personnages. Voilà, après, pour ceux qui sont intéressés par ces questions-là, ça reste quand même quelque chose... De visionnable, hein. C'est pas du tout.
Mais c'est plus du coup un film autobiographique, non?
Autobiographique, c'est apparemment les souvenirs de sa mère qui a vraiment vécu Auschwitz et qui du coup chaque année après s'est retrouvée avec deux amis pendant plusieurs jours. Elle se retrouvait à Berck plage, etc. Donc lui, il est parti. De là, après, je ne sais pas exactement, tu vois, si c'est vraiment les traits des trois femmes ou quoi. En tout cas, pour le film, c'est clair qu'il choisit vraiment trois filles qui ont des destins après la déportation complètement différents et presque un petit peu trop, mais qui malgré tout gardent une amitié. Enfin, ouais, il y a un côté où on part d'une bonne idée, d'une bonne intention, et puis on arrive à finalement quelque chose d'assez cliché. C'est un petit peu dommage, quoi.
Bah, le problème, c'est que je n'ai pas vu le film, mais ça peut être un peu casse-gueule si tu veux essayer de contenir en, je sais pas, deux heures de film tous les ressentis qui aient pu avoir après la Shoah. Ça va être un peu compliqué, quoi, non, enfin...
Ouais, bon, après, ça, à la limite, c'est pas vraiment gênant parce que, tu vois, elle se retrouve, voilà, il y a des moments où la Shoah est évoquée, mais finalement, c'est plus comment chacune, justement, vit avec sa Shoah.
Quoi.
C'est pas comment les 15 dernières années sont passées, parce que ça, on arrive vite à le comprendre, qui est devenu quoi, etc., amoureusement, politiquement, nanan, mais c'est plus, c'est plus comment chacun vit avec la Shoah et se reconstruit. Non, l'idée de départ est bonne. Moi, c'est la manière dont il applique ça. Je trouve que ça manque un petit peu. Ouais, je sais pas. Ça manque de traits, quoi.
Ben voilà, deux films différents et de même constat, finalement.
Voilà, exactement. Et puis, bah, écoute, on va écouter une première chanson et on se retrouve ensuite pour parler notamment d'Astérix.
Black you around me.
Brume 90.7, deuxième partie de notre entretien Confluence Cinéma. En direct, il est 18h45, on est dans les temps aujourd'hui Raphaël, c'est assez rare quand même.
Bon, bah, pourquoi
on arrive exactement comme ça à pile, tu vois.
À bien séparer les parties.
19h, parfait. Écoute, Astérix alors, parlons-en.
Astérix, c'est le domaine des dieux, nouvelle adaptation cinématographique en dessin animé, en 3D, en relief, signée par deux metteurs en scène, Alexandre Astier, donc, qui est le plus connu, hein, co-réalisé par Alexandre Astier, et par Louis Clichy, c'est important de le noter, c'est vraiment le réalisateur du film pour le coup, c'est un ancien animateur de Pixar, il a travaillé sur Là-haut et sur Wall-E entre autres, et c'est une, déjà pour le dire d'entrée, c'est une très très belle animation, on sent que le bonhomme connaît vraiment son métier et c'est vraiment agréable. C'est déjà un projet, à la base, Astérix et le domaine des dieux, qui a vu le jour il y a quand même pas mal de temps, ça fait quand même 4 ans de travail, et quand on a su qu'Alexandre Astier allait s'attaquer à Astérix, on pouvait s'attendre vraiment au meilleur, sachant que Kaamelott, ses travaux précédents, étaient quand même inspirés en grande partie d'une tradition populaire française, et que le bonhomme est vraiment fan, on le sait, des travaux de Goscinny et du Uderzo. Et on se demandait quand même, est-ce qu'il va aller vers une veine à la Chabat, par exemple, assez référentiel, mais aussi assez respectueuse. Et qu'est-ce qu'il va faire avec, justement, Le Domaine des Dieux, qui est un album pas très connu, quand même, parmi tous les Astérix. Hein, c'est le 17e album des aventures d'Astérix. Et les producteurs voulaient vraiment, à la base, faire Astérix en Hispanie, hein, qui était censé être plus populaire, puisque c'est un voyage, machin. Et Astier a vraiment imposé Le Domaine des Dieux, qui est une intrigue qui se base vraiment sur la psychologie des personnages, c'est-à-dire que contrairement à d'autres Astérix où c'est les cultures qui sont confrontées, etc., on suit vraiment un côté vénal là, pour le coup. On voit la cupidité des Gaulois, comme le devin par exemple montrait la crédulité des gens par exemple. Et donc Astier va dans cette veine-là et nous livre donc Le Domaine des Dieux, qui retrace l'histoire de Jules César.
Il y a quelque chose aussi peut-être de plus contemporain dans celui-là. Enfin, il y a quelque chose, même si dans Astérix, il y a toujours des clins d'œil à notre époque. Mais là, on sent qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Goscinny et Uderzo jouent un petit peu avec ça.
Bah, c'est la critique à l'époque des grands ensembles qui commencent à arriver, des grandes barres d'immeubles, des grandes banlieues. Et Hakim vient d'arriver. T'as vu, c'était bien introduit là. Hein. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Jules César qui, après avoir évidemment tenté le tout pour le tout avec les Gaulois, hein, le village résiste encore et toujours à l'envahisseur romain, décide d'être encore plus manipulateur, d'être encore plus machiavélique, dans la mesure où il veut faire construire une cité romaine à côté du village romain. Et ils auront du coup deux options, soit disparaître, soit s'adapter. Et à partir de là, les Romains vont évidemment faire des travaux à coups d'esclaves. Les Gaulois vont évidemment répliquer à coups de potions faites par Panoramix. Et progressivement, ils vont se faire happer par la culture romaine. Chacun va être de plus en plus cupide à vendre son poisson, à vendre ses antiquités et à penser comme des Romains, quoi. Tu l'as vu, Hakim ?
Je l'ai vu hier soir, en 3D, en avant-première.
Voilà, donc là, j'ai fait la présentation.
Le pitch. Voilà. Très bien. Alors moi, c'est un petit peu compliqué à faire une critique, parce que j'ai toujours eu du mal à faire, à débattre des dessins animés. Pour moi, c'est un... On va dire que c'est du 7e art, c'est du cinéma, mais c'est un médium complètement différent. Voilà, on ne fabrique pas un dessin animé comme on fabrique un film. Donc je suis je suis pas très bien calibré pour décortiquer les séquences en elles-mêmes. Par contre, cela dit, j'ai envie de dire très clairement que pour moi, c'est l'une des meilleures, peut-être même la meilleure adaptation Astérix au cinéma. Pourquoi ? Parce que, bon, j'aime bien Mission Cléopâtre, Obélix, Depardieu en Obélix, c'est très crédible. Mais voilà, je veux dire... On a grandi avec ce dessin animé, avec cette bande dessinée. Là, on a exactement les mêmes traits, les mêmes personnages. Et nous faire croire qu'Astérix peut être interprété par Édouard Baird ou par Clavier, ça va 30 secondes. Et puis Mission Cléopâtre, c'est une réussite. Mais pour moi, et je pense que tu as peut-être des arguments pour me contredire, mais pour moi, c'est un film esprit nul, les nuls. Et donc l'esprit du Uderzo et du Goscinny n'est plus là. Ça n'empêche pas que c'est un bon film. Et là, on l'a, cette ambiance. Et alors, je ne sais pas comment tu as introduit le film. Je suppose que tu as beaucoup parlé d'Alexandre Astier. Je ne sais pas vraiment quelle était sa contribution là-dessus.
C'est
par
bon,
contre, l'autre réalisateur, Louis Clichy...
Je l'ai évoqué aussi. Hein.
Quand j'ai vu le dessin animé, au départ, je ne savais pas si c'était une production française ou américaine. Et effectivement, quand j'ai fait deux, trois petites recherches et que j'ai vu sur IMDb qu'il avait collaboré à Là-haut et à Wall-E, bon, on voit la petite patte hein, quand même. Hein. Et je trouve que pour un film français, j'étais étonné de voir que le film a coûté quand même 36 millions d'euros quand même. Hein. C'est quand même un gros budget. Hein.
4 ans de travail.
4 ans de travail, bah, ça sent. Je veux dire que là, contrairement à plusieurs dessins animés français qu'on a eu, on sent qu'il y a eu une patte artistique, une recherche au niveau du graphisme hein, qui est... qui rappelle les productions Pixar, mais bon, qui n'a rien à envier parce qu'on a cet esprit gaulois, cet esprit Goscinny et cette patte Uderzo, parce que c'est les mêmes dessins. Et du coup, je trouve qu'on a vraiment affaire là, vraiment à une des meilleures adaptations.
Alors, au niveau des dialogues, parce que c'est vrai quand même, c'est aussi la patte de Uderzo, Goscinny, c'est ça aussi, c'est la langue quand même qui est toujours à la fois drôle, efficace.
L'intelligence, déjà, c'est le choix d'Astier. Parce que Astier, c'est déjà un cinéaste des dialogues. Enfin, quand on voit Kaamelott,
c'est un cinéaste ou pas?
C'est son deuxième film parce qu'il a déjà fait David et Madame en scène, qui n'était pas un très bon film. Mais en tout cas, c'est un artiste, tu préfères.
Mais du coup, c'est lui qui a retaillé les dialogues un petit peu.
Disons qu'il y a vraiment l'art de Goscinny, mais en même temps l'art d'Astier.
Il y a un mix parce qu'il y a des citations qui sont d'époque. Travailler plus pour gagner plus. Bon, c'était pas l'époque de Goscinny.
Oui, mais
je vous ai compris.
Dans les revendications syndicales, c'est très très drôle dans tout le film. On suit ça, des esclaves et après des légionnaires romains. Face à leur autorité, là pour le coup on retrouve, enfin c'est ça qui est dingue, le pur Goscinny quoi, des années 60, voilà, comme on disait, le côté un peu politique machin, mais aussi le pur côté Astier où il y avait toutes ces blagues, il arrive à placer des dialogues de Kaamelott, il le sait pas faux, et dans Astérix, et ça qui est absolument génial, et on retrouve comme tu l'as très très bien dit, et c'est je crois une première, le trait du Uderzo. On avait souvent l'humour de Goscinny de manière déviée peut-être pour M. Chabat, mais là on voit vraiment le trait du Uderzo l'animation rend vraiment hommage, je trouve, au dessin du Uderzo.
Les dessins animés en 2D, notamment Astérix le Gaulois, qui est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petit, c'est réalisé par Pierre Tchernia, mais est-ce que Uderzo a été là pour le
oui,
dessin?
Oui, surtout après, quand ils ont fondé le studio Edéfix, où ils ont fait aussi les adaptations de Maurice, aussi en bande dessinée, les Lucky Luke, tout ça. Mais, et d'ailleurs, entre parenthèses, le meilleur avant, c'était Les 12 Travaux, mais jusqu'à ce matin, moi, j'ai vu celui-là, pour moi, c'est la meilleure adaptation, là, celui qu'on vient de voir, là, le Astier, parce que voilà, il y a ce respect, cette humilité.
J'ai envie de dire le cliché plutôt, hein, parce qu'il a quand même beaucoup. Je vois plus la place de cliché.
On sent, mais il le dit Astier, que lui, il a apporté vraiment le travail en amont d'écriture, de caractérisation, etc. Et Clichy, le travail d'animation qu'il ne connaissait absolument pas. Et les deux sont vraiment, voilà, ils rendent hommage, voilà, vraiment aux travaux. Moi, je suis un fan du Uderzo et de Goscinny, et c'est la première fois que je vois vraiment quelque chose d'autant fidèle, d'autant respectueux. Et je trouve qu'il développe en plus l'univers Astier d'une manière extrêmement intelligente, notamment avec Obélix. Il le montre comme il a toujours dû être, c'est-à-dire, c'est le super-héros français, Obélix, quoi. Et il le montre comme Hulk, comme Superman, à cette idée.
Comme Godzilla.
Godzilla. C'est génial. Enfin, ça marche très très bien en plus, toutes ces références. Et il le montre avec le petit gamin, là, Applejuice. C'est vraiment émouvant, là, tout l'arc Applejuice et Obélix. Il le montre là.
Donc vous conseillez en tout cas, messieurs.
Oui. Ah, bon, moi, je
soyons
c'est l'un des films préférés enfant, de cette année. Ça vaut le coup, quoi.
Oh. Ah oui, mais c'est très très drôle en plus. Hein.
Peut-être pas l'un des meilleurs films de cette année.
Ah, en même temps, c'est une petite année. Donc.
Mais mention spéciale, là, c'est du flan ou c'est pas du flan.
Il
peut y avoir du flan dans une potion magique.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est très important, nous on a grandi avec ce monsieur, c'est Roger Carrel qui fait encore la voix d'Astérix.
Il a tout fait. Hein.
Et il a pris sa retraite il y a environ 10 ans et il a accepté, c'est la seule proposition qu'il a acceptée.
À 87 ans.
Ouais, et il faut aussi souligner la voix de Guillaume Brea qui fait Obélix, qui reprend la voix de Feu Pierre Tornade et il le fait très très bien, c'est un comparse à Astérix de Kaamelott.
Il y a toute une répandale de grands acteurs qui prêtent leur voix. Hein.
Forestier,
enfin, pas des grands, forcément mine, des grands acteurs, mais des grands noms, hein, Forestier.
Élisée Moon en Légionnaire.
Moon, donc,
et toutes les voix sont parfaites, hein, franchement.
Alain Chabat.
Chabat, qui reprend un sénateur. Non, c'est vraiment absolument génial. Génial, c'est drôle, c'est humble, c'est pop, c'est référencé, c'est léché, c'est parfait.
D'accord. Alors, on va basculer sur un autre univers avec Monsieur Vdaouche et Guillaume Canet. Du coup, là, on rentre dans le natural born killer français, quoi.
Un petit peu. Oh, oui, on va dire. Ouais, le Dexter français avant l'heure. C'est la prochaine fois, je viserai le cœur. Donc, un excellent titre, hein, tout ce qui me plaît au cinéma. Enfin, du moins, ça me permet d'en.
Avec l'affiche qui rappelle de battre mon corps, c'est arrêté.
Ouais, voilà, ah, ça fait un petit côté un peu Audiard quand même. Ouais,
et donc, en fait, non, c'est un film qui est tiré d'un fait divers, comme à chaque fois. Donc, en l'occurrence, le tueur de l'Oise, hein, qui a commis des crimes entre 78 et 79. Et en réalité, c'était un gendarme. En fait, bon, voilà, le pitch, c'est une série de meurtres, une série de filles qui se font prendre en autostop et qui se font ensuite tirer et laisser par abandon au bord de la route. Et très rapidement, alors, dans mon souvenir, j'ai trouvé que c'était assez mal expliqué, mais dans la réalité, ça s'est passé comme ça. Très rapidement, les soupçons, enfin, tu vois, c'est la police a commencé à poser ses soupçons sur la gendarmerie. Et en l'occurrence, ce personnage, donc le gendarme Lamar, qui est dans le film interprété par Guillaume Canet. Et ils ont très rapidement commencé à faire des parallèles entre son emploi du temps, les moments où les meurtres étaient commis et les moments lui où il était en congé. Et donc très rapidement, bon voilà, on va découvrir que cette personne qui était très très à l'écart, très
parce que
très...
l'enquête se dure sur combien d'années?
Enfin les meurtres ont lieu sur un an, mais toute l'action se passe à l'hiver 78. Hein. D'ailleurs, ça se passe dans l'Oise, dans le Nord, il pleut tout le temps, tout le monde est avec un parapluie.
Donc c'est un an après les faits, en fait.
Voilà, exactement. Et alors, dès le départ, on sait, dans le tout premier plan, on comprend que c'est le tueur et on comprend que c'est un gendarme. Donc là, c'est une personne qui commet ses meurtres, qui ensuite rentre chez lui, se flagelle, se baigne dans un bain d'eau froide glaciale et ensuite, à 3h30, s'habille pour être gendarme et va sur les lieux de crime de son dernier crime. Et voilà, alors... C'est un film remarquable de par l'interprétation. J'ai jamais été un grand fan de Guillaume Canet, mais là, il faut dire comme il livre une interprétation assez extraordinaire. Ça livre d'ailleurs vraiment des moments de suspense et d'angoisse à la limite du supportable dans les moments qui précèdent les meurtres, parce qu'on sait que c'est le tueur. On sait qu'il va passer à l'acte, mais on ne sait pas de quelle façon. Et les jeux de regard, les jeux de parole, la timidité du personnage de Guillaume Canet font vraiment, vraiment les jetons.
Et ouais, je crois qu'il l'a un peu travaillé à l'Actor Studio. Là, j'entendais qu'apparemment, il l'a travaillé bien différemment de ses autres rôles. Quoi.
Ah oui, bah d'ailleurs, j'ai jamais été un grand fan de Guillaume Canet en tant qu'acteur. J'ai plus été le fan. Enfin, je suis toujours fan de Guillaume Canet, le réalisateur. Et là, il a vraiment une prestation vraiment aux antipodes de ce qu'il pouvait faire avant. Le seul problème, il y a un petit problème qui fait que le film est très bien, hein, mais il y a un petit truc qui manque, qui aurait pu faire The Film, le thriller à la française, mettant en scène un tueur en série, c'est le manque de patte de la mise en scène. Le film est réalisé par, alors attends, j'ai noté son nom, Cédric Anger, qui pendant 10 ans, presque 10 ans, a été rédacteur au Cahier du cinéma, qui ensuite a été co-scénariste, il avait co-scénarisé le petit lieutenant de Beauvois. Et là, c'est son troisième court-métrage, et je trouve que à l'instar d'un Schizophrénia, ce magnifique film sur autrichien, sur un tueur en série, où là le metteur en scène avait imaginé toute une mise en scène avec des mouvements de caméra assez ahurissants qui vont ensuite inspirer le cinéma de Gaspard Noé. Avec ces mouvements de caméra, il avait réussi à transcrire la psychologie et la schizophrénie du personnage du tueur en série. Et là, c'est pas du tout le cas. On se contente de filmer les séquences de meurtre, l'enquête, de façon assez plate. Et je trouve que finalement, le réalisateur se laisse regarder filmer, pose trop sa caméra, et du coup, c'est trop passif. Et j'aurais voulu qu'il y ait un petit brin de folie.
Mais c'est vendu pour séquence. La télé, non?
Non, ah non, non, il y a quand même des beaux plans. Non, c'est pas vendu pour la télé.
C'est qui produit, justement?
Oh, là, je me rappelle plus, j'ai pas fait attention. Hein.
Ça sent quand même, malgré ça, tu peux quand même faire un truc de prime time, entre guillemets, quoi, malgré l'enquête policière.
Alors après, il faut remettre en question qu'est-ce qu'un film de télévision.
Bon, messieurs, on va pas avoir le temps de rentrer dans ces considérations-là. On va laisser une page musicale.
C'est un très bon film, allez-y, rien que pour Guillaume Canet, et si vous aimez les thrillers et les films de tueurs en série à la française.
Et justement, dernière partie de Confluence Cinéma, on va revenir sur les grands films autour de tueurs en série. Et avant ça, musique. Takes care of his own. You guys
takes care of his own.
Même au niveau de la musique, rien, tu
vous prendre. Êtes sur Brume en direct et il est 19h passé de quelques secondes à l'heure où les autres radios et télévisions vous parlent de faits divers et variés. Nous, on va vous parler des plus grands tueurs en série de l'histoire.
Voilà, on continue dans la veine des tueurs en série après Guillaume Canet. Alors, le tueur en série a toujours influencé le cinéma. Le premier, bon, il y a toujours eu des tueurs en série depuis la création de l'humanité, mais l'un des premiers qui a vraiment été médiatisé et qui va influencer le cinéma dès sa création, c'est bien sûr Jack l'Éventreur. Et là, dès 1926, il y a Alfred Hitchcock, hein, c'est son troisième film quand il est encore en Angleterre, The Lodger. Ça va vraiment être le premier film qui va utiliser le terme de tueur. Enfin, même si le terme tueur en série va être inventé en 70, mais c'est le premier film qui va mettre en scène un tueur en série. Et c'est inspiré de Jack l'Éventreur. Après, il y a eu M.
Non. Qui est mythique en plus quand même, Jack l'Éventreur, parce que on n'a jamais vraiment su.
Récemment, il y a une personne qui a, bon, ça c'est un autre sujet, mais qui aurait cru avoir trouvé.
Oui,
la...
ouais, l'ADN.
Bon, il
ouais.
y en a eu d'autres. Hein. Ouais.
Non, je rigole parce qu'en fait, c'est Saul Keller. C'est tout. C'est... Je suis tout seul, je me marre. Moi.
Et donc, 5 ans plus tard, il y a un autre chef-d'œuvre hein, réalisé par un autre metteur en scène qui, comme Hitchcock, ira en Amérique ensuite et qui d'ailleurs a influencé Hitchcock. C'est Fritz Lang avec M. le Maudit qui lui s'inspire du tueur de Düsseldorf.
De Düsseldorf.
Düsseldorf.
Ouh là là.
Il a du mal avec l'allemand. Le vampire de Düsseldorf.
Mais alors, il va falloir réviser vos classiques du cinéma un peu. Là.
Et non, l'allemand surtout.
Cinéma pas allemand. Quoi.
Et donc là, ces films mettant en scène des tueurs, bon, en général, les tueurs de filles, de garçons qu'on ne montre pratiquement jamais, qu'on laisse supposer petits pervers, etc. Ça va perdurer jusque dans les années 50 et dans les années 50 et plus précisément en 57, il va y avoir un grand traumatisme en Amérique qui va un peu changer la face de l'Amérique et du cinéma. C'est la découverte des atrocités de Ed Gein. Ed Gein, qui était un fermier qui vivait dans un village du Visconti hein, de 800 000 habitants, donc vraiment le trou du cul du monde.
Wisconsin aussi. Il a des problèmes avec les villes.
Et voilà, grosso modo, Ed Gein, une personne très traumatisée par la mort de sa maman, qui l'idolâtrait, mais qui à la fois la détestait. Donc du coup, il va déterrer le cadavre de sa maman, il va l'empailler, il va fermer sa chambre, il va la garder telle qu'elle. Et après cela, il va déterrer des cadavres d'autres femmes, va utiliser la peau de ces cadavres, de femmes, va se faire des vêtements parce qu'il voulait être une femme, il voulait s'identifier à sa maman. Et là, quand on va découvrir ces massacres, ces atrocités, ça va influencer entre autres Robert Bloch, qui va écrire le roman de Psychose, qui va encore une fois être adapté par Hitchcock, la boucle est bouclée. Norman Bates va être inspiré de Ed Gein, et Ed Gein va inspirer d'autres tueurs en série. Bon, Leatherface, même si c'est pas un tueur en série, mais il va inspirer Maniac, il va inspirer
Hannibal Lecter, enfin,
Buffalo Bill. Et Hannibal Lecter, c'est bien que tu en parles parce que Hannibal Lecter. Tous les spécialistes des tueurs en série, notamment Stéphane Bourgoin, qui est le spécialiste français, va te dire que le personnage d'Hannibal Lecter est un tueur qui n'existe pas. Un tueur en série qui prévoit ses crimes une année à l'avance, un tueur en série intelligent, qui est très cultivé, qui dessine très bien, qui est un brillant psychologue, qui adore l'Italie, qui est très cultivé, qui cuisine très bien, ça n'existe pas. Et
pourtant, c'est après la marque de fabrique voilà. De nombre de romans, de films, voilà. Où le tueur va quasiment 50% du temps être quelqu'un qui aime la musique classique, qui mange des plats raffinés.
Il faut dire que le personnage d'Hannibal Lecter est un inspiré par plusieurs tueurs en série. Il y a quand même Ted Bundy qui est quand même là derrière.
Non, Ted Bundy, c'est Buffalo Bill qui a inspiré Ted Bundy.
Mais je veux dire, Ted Bundy, c'était un esthète, entre guillemets, était étudiant en droit, il séduisait, il était très raffiné, etc. Je veux dire, dans ce côté-là.
Après, dans l'histoire, quand même, là, ça serait des débats longs et qui ne sont pas vraiment de notre ressort, mais il y a eu quand même pas mal aussi de médecins, d'avocats, de gens très, très connus, très de la haute, on va dire, ça, qui étaient des vrais tueurs en série.
Ça,
qui...
ça va arriver après 70. Hein.
Ah non. Ah non, au 19e, début 20e, dans la société anglaise, américaine, il y a des grands pontes, ça existe aussi.
On peut même dire que Jack l'Éventreur. Hein.
Voilà. Oui, on peut.
À l'époque,
oui.
On disait qu'il était proche de la reine. Mais voilà, le Silence des Agneaux est un bon exemple parce que c'est l'un des premiers films hollywoodiens américains issus d'une grande major, qui bénéficiait d'un très grand budget, qui va mettre en scène un tueur en série. Et ça va être un succès énorme, 5 Oscars, les 5 Oscars les plus prestigieux, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, etc., etc. Et là, ça va être un raz-de-marée. Et sans ce film-là, il n'y aurait pas eu les Seven, il n'y aurait pas eu... X-Files, hein.
Oui, mais c'est compliqué, mais d'accord. Oui, X-Files.
Et d'autres romans qui vont être écrits par la suite, hein, grâce à ce que Thomas Harris, donc le romancier du Silence des Agneaux, va apporter, va influencer d'autres écrivains, et notamment va permettre la création d'un bouquin comme American Psycho, qui va être ensuite adapté au cinéma.
Silence des Agneaux, quelle année alors, messieurs ?
88, le bouquin, et le film va être adapté tout de suite après.
Mais il y avait déjà une première adaptation, quand même, de Harris, avec Le Sixième Sens de Michael Mann.
Qui était le titre original, enfin le bouquin, c'était Dragon Rouge, qui était vraiment le premier. Bah, un film qui mettait en scène un tueur en série, c'était le premier volet mettant en scène Hannibal Lecter. Mais voilà, après le
qui est adapté en ce moment par la série justement plus, en tout cas pour l'instant dans les premières saisons, au Dragon Rouge.
Mais voilà, après le Silence des Agneaux, voilà, c'est Seven, c'est Zodiac, c'est les grands tueurs en série qui ou même comme le tueur en série d'American Psycho, hein, un trader qui est devenu très intelligent, très beau, très good looking et qui s'avère être un gros monstre. Et c'est ça qui a toujours voilà, il y a aussi Hitchcock qui a un peu mis un peu de l'huile sous le feu. Il a toujours dit que voilà, plus le méchant était réussi, mieux le film l'était. Et c'est vrai qu'au cinéma, et notamment moi, je suis un grand friand de films de tueurs en série, et j'adore la figure du mal parce que voilà, c'est sa capacité à être très, très, très inquiétant, très intelligent à la fois.
C'est le monstre parmi nous, quoi.
Voilà.
Alors moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une famille de tueurs en série. Alors comme tu disais, il y a les années 30-40 avec ceux qui sont un peu plus bonnets ou les fermiers perdus au fin fond de l'Iowa ou je ne sais quoi. Après, il y a les tueurs hyper élitistes et tout ça. Et il y a aussi les road movie killers un peu, quoi. Alors, Natural Born Killers, bien sûr, mais d'autres aussi comme ça, où il y a ce truc du tueur en série qui va de ville en ville, qui désingue un peu tout ce qui
même
passe.
Même du chasseur, hein, pour citer un classique, hein, c'est ça aussi, hein, par exemple. Hein,
de en chasse, quoi, ouais, qui sont plus des
Bah, moi, ça, tu me parles de tueur en série et de road movie. Bon, tu cites Natural Born Killers, oui, tueur en série. D'après un scénario de Tarantino, mais tu me renvoies automatiquement, je pense, à un bouquin de James Ellroy, qui est un des bouquins les moins cités de James Ellroy, qui est un tueur sur la route.
Voilà. T'en parles souvent ici, quand même, à la radio.
Non, mais un tueur
qui
met en scène un tueur en série qui se faufile dans tous les états et qui va tuer. Et c'est vrai. Mais il y a aussi un autre film qu'on n'a pas cité, hein, et qui peut-être qui a été réalisé après 60, hein, après Psychose et après Le Voyeur, qui est également un film sur un tueur en série, donc Powell, Michael Powell, qui va ruiner sa carrière, parce que c'est un film qui a beaucoup choqué à l'époque, et qui là vraiment mettait en scène un tueur en série qui filmait ses victimes parce qu'il avait vraiment cette obsession de filmer la mort dû à un traumatisme étant enfant. Et il va y avoir un autre film tout aussi important et qui est vraiment extraordinaire, par Richard Fleischer, qui est Le Tueur de Boston.
Dans L'Étrangleur de Boston, il y a Le Tueur de Boston qui est un film concurrent. Voilà. Avec, je sais jamais son nom, Victor, je sais plus comment,
obèse. Et ça, c'est tiré d'une histoire vraie aussi.
Voilà, oui, hein, c'est tout tiré d'histoire vraie. D'ailleurs, le film de Fleischer, donc L'Étrangleur de Boston, a été réalisé vraiment pile un an après la découverte de l'affaire. Et donc, du coup, quand le film est sorti, le tueur était encore en prison. Et c'était.
Et il y a aussi les sous-genres qu'on n'a pas dit, qui ont surfé sur cette voie-là, comme les slashers, les giallo.
Voilà, il y a toujours une vie entre film de tueur en série et film les slashers. Les slashers, c'est voilà, typiquement des adolescents qui se retrouvent.
Mais c'est basé quand même sur des mythes, le croque-mitaine, etc.
Voilà, mais le croque-mitaine, je vois très bien à quel film tu fais référence. Les Halloween, les.
Par exemple, mais ça inspirait tout ça. Quoi.
Les Halloween, même, bon, peut-être pas Leatherface et les Masques à Tonze, mais Halloween et Vendredi 13 montrent des bogeyman qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'humanisme. Alors, par exemple, Leatherface, dans Masques à Tonze, c'est une personne qu'on peut avoir un peu de sensibilité. On en avait parlé dans l'émission spéciale Massacre à Tonceneuse, c'est quelqu'un qui a un petit peu du vécu.
Alors, il y a un personnage dont on va être quand même obligé de parler, c'est Dexter, parce qu'il y a aussi cette révolution Dexter, où là, on nous amène presque à apprécier les crimes d'un personnage, c'est-à-dire j'imagine que beaucoup d'auditeurs connaissent Dexter, qui est donc biologiste, spécialiste scientifique à la police de Miami, et qui en même temps tue qui est mordu par le vice de tuer en série des gens. Mais du coup, son père adoptif lui a inculqué un code de bonne conduite pour tuer que des méchants, c'est-à-dire que des violeurs d'enfants, que des hommes des qui ont déjà tué, etc., etc. Et là, moi, ce que je trouvais intéressant, même si la fin de la série m'a beaucoup déçu, mais sur les deux, trois premières saisons, c'était aussi que ça nous amenait vraiment à cette interrogation, à ce truc-là où des moments, on est content de voir Dexter défoncer des mecs horribles, et même si on est contre la peine de mort, enfin, il y a tout un truc comme ça que ça fait vibrer.
Ça questionne la question du bien et du miel, du mal et de tout ce qu'il y a de plus de mauvais en nous. De toute façon, Dexter, c'est nous, et comme je disais, c'est le monstre qui est parmi nous, et en plus, il a une tête d'ange, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. Et pourtant, voilà, il est policier,
comme Anthony Perkins en Psychose.
Hein. Oui, c'est ça, il y a vraiment ça, ouais. Le bébé à la tête d'ange, mais pourtant qui trucide des gens. Et puis évidemment, le tueur à la saucisse de Morteau, dans La Cité de la Peur, qui désingue tous ces abrutis du Festival de Cannes, et c'est aussi un film de Serial Killer.
Ouais, c'est une parodie, mais un très bon film.
Mais une très bonne parodie pour le coup. Ouais, ça marchera très bien.
Mais ça marche très bien. Oui, tu as cité Hannibal. Bon, voilà, c'est une la série après. Le personnage Hannibal a été adapté à l'écran. Là, il y a Alléluia, le film de Fabrice Vels. Tu en as parlé?
Non, j'ai pas parlé, mais qui est très bien, sur les tueurs de la lune de miel.
Les tueurs de la lune de miel.
Et en France aussi, on a quand même eu Bebel, qui a traqué plusieurs tueurs en série. Là, il y a l'Alpager, où il traque Bruno Kramer, qui joue l'épervier, qui tue de jeunes homosexuels en disant viens mon coco, et hop. Et il y a aussi évidemment Peur sans la ville, avec l'infâme Minos, qui est une tentative de giallo à la française, qui est vraiment très intéressante.
Et il y a un autre film qui met en scène un tueur en série et qui a été réalisé au début des années 80 et qui aujourd'hui ne pourrait plus jamais réalisé, vu à quel point le film a été conçu vraiment dans un état, je pense, très second, c'est Cruising.
Oui.
Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un tueur en série. Et on connaît un peu l'anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau meurtre, c'est la victime du précédent meurtre qui joue le tueur en série.
Il va continuer un petit peu aussi dans cette voie-là avec un autre film qui est aujourd'hui complètement invisible. J'essaie de le trouver, c'est très 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 dur. Il y a deux versions. La version pro-peine de mort et contre la peine de mort de William Friedkin, donc c'est Rampage.
En anglais.
Le sang du châtiment, je vais y arriver, avec Michael Biehn. Et justement, c'est encore une question du bien, du mal. Cette frontière-là qui a toujours fasciné William Friedkin et qui est un cinéaste, c'est toujours une question-là en tout cas.
Allez messieurs, pour finir, un chacun là, de films de tueurs en série pour nos auditeurs.
Moi c'est Zodiac, le premier qui me reste ce serait Zodiac, film à l'antithèse de ce qu'on a dit, c'est pas un film sur des boucheries, etc., c'est des hommes, des enquêteurs dans des bureaux qui parlent, qui essayent de comprendre des cryptogrammes et qui vont passer 30 ans à chercher un tueur en série qui finalement qui est un fantasme, qui est un fantôme, quoi.
Moi, Le Silence des Agneaux, parce que c'est un film qui a vraiment permis à des films comme Maniac ou même Masque à tronçonneuse, qui étaient des films mettant en scène des tueurs en série, produits dans des conditions très B, voire même Z, qui étaient distribués dans des salles assez miteuses à New York. C'était vraiment les films sales qu'on avait honte de voir. Et ce film, Le Silence des Agneaux, c'est une date, parce que du coup, ça va permettre de faire des films, comme on l'a dit, Zodiac, Seven. Ça va permettre de démocratiser un petit peu plus le personnage du tueur en série. Ça va, ça va lui apporter une nouvelle aura, même si on va transformer un peu le mythe du serial killer et qu'on va en faire un personnage trop cinématographique et pas serial que ça. Et parce que c'est un excellent thriller, je l'ai revu récemment et c'est vraiment du très bon cinéma. Donc, Le Silence des Agneaux, The Silence of the Lamp en anglais.
Ok, écoutez messieurs, merci bien. La semaine prochaine, troisième partie, les tueurs à gages peut-être.
La semaine prochaine, il y a la French qui sort. Ouais. Donc pourquoi pas un truc sur le film de gangster, pourquoi pas.
Ouais. Voilà. Et on pourrait aussi parler de la French Connection originale, ça pourrait être pas
ou
mal.
Ou même de Jean-Paul Belmondo, je pense que ça pourrait aussi marcher.
On verra tout ça, ça sera surprise pour nos auditeurs. Et puis d'autres films qui sortiront et qu'on vous chroniquera. À très bientôt et bonne semaine.
Bonsoir. Bonne semaine, au revoir.